Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle causerie data entre Franck Charrier, votre serviteur, et le chercheur, professeur, Jean-Michel Loubès. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour France.
Qui êtes-vous Jean-Michel ?
Je suis professeur des universités à l'Université de Toulouse. Je travaille dans le laboratoire de mathématiques de Toulouse, donc je suis un mathématicien. Je suis un mathématicien qui s'intéresse aux algorithmes et tout particulièrement qui s'intéresse aux problématiques sur les biais.
Pourquoi un autre podcast sur l'IA, vous demandez-vous ? Parce qu'avec DataRing, on ne nage pas en surface. Plongeons tête la première pour explorer non seulement l'IA et comment cela fonctionne, mais pourquoi elle ne fonctionne pas toujours ? Est-ce que cela va signifier pour nous, nos familles, nos emplois, nos loisirs, nos façons de vivre, de penser et d'habiter le monde ? La conversation avec les causeries data, c'est apporter un éclairage différent. Alors on va prendre le temps de poser des questions brûlantes sur les biais algorithmiques qui peuvent faire rougir un vieux PC, à l'explicabilité impossible des IA ou pas. Parce que parfois, peut-être qu'elles semblent avoir leur propre volonté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stanford, mais je vais le questionner. Et en passant par les implications éthiques et légales qui donneraient des sueurs froides, même aux robots les plus froids. Alors Jean-Michel, on va démarrer avec la question d'usage. Comment définissez-vous les systèmes d'intelligence artificielle dans le contexte actuel ?
Alors c'est une question compliquée parce que l'IA, c'est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes capables d'effectuer des tâches qui, si elles étaient accomplies par des humains, nécessiteraient une forme d'intelligence. Donc on voit qu'il faut commencer par définir qu'est-ce que l'intelligence. Et c'est un concept qui est très complexe parce qu'il englobe plusieurs aspects de la capacité cognitive. C'est la capacité de penser de manière logique, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, d'analyser des situations complexes et aussi de pouvoir apprendre de l'expérience et de s'adapter. Alors, est-ce que les machines et à travers l'intelligence artificielle en sont capables ? Eh bien, depuis quelques années, la théorie de l'apprentissage a permis aux machines d'apprendre par elles-mêmes à partir d'instructions qui ne sont pas données par une personne mais qui sont générées directement par l'ordinateur. L'ordinateur apprend donc de lui-même, à partir de données qui lui sont fournies, un modèle et peut arriver à avoir des modèles qui permettent des prises de décision.
Vos travaux, Jean-Michel, portent sur l'équité, la robustesse dans l'apprentissage automatique, du moins les travaux que vous avez menés chez Aniti. J'ai cru comprendre que vous alliez intervenir également parce que vous êtes modeste à TSE, à la Toulouse School of Economics. Comment définiriez-vous un biais dans le contexte de l'IA et pourquoi est-il crucial de le quantifier et de les comprendre ?
Alors, le terme biais est un terme aussi compliqué qu'il faut bien entendu définir. Donc biais, ça vient du latin biaxis, deux axes. Ça veut dire que lorsqu'on est face à un problème, on peut le voir selon deux directions, une direction principale et puis une direction un peu inattendue qui surprend. Donc si on regarde dans le dictionnaire l'étymologie, la décision biaisée, c'est une décision qui dévie par rapport à un comportement attendu. Et le biais, c'est la variable qui entraîne cette déviation. Donc en fait, un biais algorithmique se réfère à des situations où un algorithme ou un système de traitement de données automatique donne des résultats qui vont être systématiquement différents pour certains groupes de personnes. Et ainsi, il y a donc une déviation pour une minorité de personnes par rapport à un comportement majoritaire.
Oui, mais par définition, un système d'IA, il discrimine, c'est ce qu'on va lui demander.
Tout à fait, et en fait, on peut regarder les conséquences de ces biais. Le système doit discriminer, c'est-à-dire qu'il doit arriver à effectuer une tâche qui permet de classifier la population en sous-groupes. Mais on attend que cette classification soit réalisée pour de bonnes raisons. Des raisons qui ont du sens par rapport à la tâche que l'algorithme est censé couvrir. Et justement, quand il y a des biais, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, les raisons pour lesquelles la discrimination est faite sont des raisons qui sont totalement différentes des vraies raisons de cette tâche. Par exemple, si on peut prendre un exemple, dans un système de recommandation où on cherche à prédire, à donner des conseils à une personne sur le métier qu'elle doit effectuer, une personne qui a fait des études autour de la biologie ou médicale, on peut lui recommander d'être par exemple chirurgien. Lorsque on introduit la variable genre, ou même lorsque l'algorithme détecte que la personne à qui il doit faire cette recommandation est une femme, l'algorithme peut souvent avoir tendance à recommander plutôt un métier d'infirmière que chirurgien. C'est en ce sens que c'est un biais, puisqu'on s'attend à ce que deux personnes qui ont des CV similaires, avec les mêmes compétences, reçoivent la même recommandation, alors qu'ici, la variable genre, qui semble ne pas être causale, entraîne un changement de l'algorithme.
Est-ce que vous pouvez nous donner un cas d'usage, par exemple, au-delà des recrutements, sur des biais de genre?
On peut par exemple penser à un algorithme de gestion du personnel qui essaie d'apprendre pourquoi les personnes sont malheureuses au travail. L'algorithme analyse un certain nombre de données et préconise un certain nombre d'actions. Les actions, ça peut être plus de temps libre, plus de responsabilités, des formations. On s'est aperçu que ces algorithmes avaient des comportements différents en fonction du genre, c'est-à-dire qu'il arrivait à beaucoup mieux détecter le mal-être au travail des hommes. Il était beaucoup plus sensible aux indications, aux variables. Donc ça veut dire qu'il apprenait dans les données qu'il observait le mal-être au travail des hommes à travers les recommandations des supérieurs, les retours d'expérience des employés. Il était capable de prédire que ces personnes étaient malheureuses et donc donner des recommandations pour les rendre plus heureuses et surtout éviter qu'elles changent d'emploi. Alors que pour les femmes, les raisons étaient essentiellement masculines, donc ça ne marchait pas du tout pour les femmes. Et il y avait deux conséquences très importantes. La première conséquence était tout d'abord une rupture d'équité entre le traitement pour les employés. Et d'autre part, comme l'algorithme préconisait souvent pour que les gens restent sur place des augmentations de salaire, on avait des augmentations de salaire plus importantes préconisées pour les hommes que pour les femmes, qui aboutissaient à un déséquilibre entre les salaires entre hommes et femmes dans l'entreprise.
Et pareil, ça, je crois qu'on l'a vu également dans les algorithmes de recrutement, puisqu'en moyenne, les femmes gagnent, semble-t-il, 24% en rémunération moins que les hommes. Et donc, ça amenait statistiquement les algorithmes dans leur, on va dire, demande et dans leur approche de la rémunération des femmes à sous-évaluer la rémunération qui pouvait être faite à une femme. Ça, on en avait beaucoup parlé. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Ça me permet de redéfinir l'impact du biais. Parce qu'en fait, le biais algorithmique, il est essentiellement de deux natures. La première nature du biais est un biais décisionnel. On a envie qu'une variable n'influe pas dans la décision. C'est-à-dire qu'on apprend un comportement optimal, une décision optimale, et on n'a pas envie que des variables qui, selon nous, n'ont pas un effet causal entre en jeu et change la décision. Donc, ici, l'exemple, on n'a pas envie que dans un recrutement, pour une personne, on regarde au-delà des compétences. On pense que le genre n'influe pas sur les compétences. Donc ce biais, c'est un biais qui va contre le fait qu'on veut la même décision pour tous. Mais il y a un autre type de biais, c'est un biais sur la performance de l'algorithme. On imagine un algorithme ici, l'algorithme d'aide au management dont je vous ai parlé. Cet algorithme, eh bien, c'est sa performance qui dépend du genre. Il marche très bien pour les hommes, mais il ne marche pas bien pour les femmes. Et ça, c'est un autre type de biais un peu plus compliqué que le premier, puisqu'ici, on a envie que l'algorithme fonctionne de la même façon pour tout le monde, donc qu'il n'y ait pas de variable de sous-groupe qui soit impacté plus qu'un autre, non pas en termes de décision, mais en termes de performance de l'algorithme.
Mais alors, nous avons tous des biais. On a des biais de confirmation, on a des biais d'adhésion, on a des biais culturels. Mon développeur, lorsqu'il programme, parfois il peut aussi transmettre ce propre biais. Et puis nous avons également ceux qui vont commanditer le programme, qui vont aussi avoir leur biais. Donc on a deux écueils. C'est les instructions qui vont être données, la formation peut-être aux développeurs dans la prévention des biais. Et puis ensuite, les instructions pour des questions évidentes de responsabilité qui doivent être données à ces 10 développeurs parce qu'ils n'ont pas forcément la même logique. Si je suis dans une université et que je fais un tri des CV, qu'est-ce que j'attends moi? Qu'est-ce que j'attends moi, dans ce tri sélectif des CV, qu'est-ce que c'est qu'un bon CV ? On n'a pas tous la même définition du bon CV.
Donc, nous avons vu que les biais, c'était des variables qui créent des déviations. Et en fait, une des difficultés, c'est que, comme dit Cathy O'Neill dans son livre « Weapons of Mass Destruction », les armes, les maths comme alors ça, en français, ça marche moins bien, mais comme armes de destruction massive.
On a un biais culturel.
Les biais sont partout et c'est justement c'est le fait qu'il y ait des biais qui fait que les algorithmes fonctionnent et que les algorithmes peuvent apprendre. Donc, il y aurait des mauvais biais et des bons biais. Et qui détermine le mauvais biais du bon biais? Eh bien, en fait, on a besoin d'éthique, on a besoin de morale et on a besoin de loi. Donc, la définition de qu'est-ce que c'est qu'un bon CV, c'est quelque chose de compliqué parce que quand on veut identifier les biais dans les algorithmes, les biais peuvent venir de plein de choses. Ça peut venir des biais qui sont directement codés par le programmeur. Alors, ces biais-là, en science, c'est des biais qu'on peut facilement vérifier parce que si on a accès au code, on peut facilement regarder que le programmeur a choisi délibérément de favoriser une classe de la population plutôt qu'une autre.
Ma fameuse logique de transparence et d'explicabilité.
Voilà, et c'est pour ça que c'est important de demander au législateur, lorsqu'il fait l'audit des algorithmes, de pouvoir, à minima, regarder les instructions qui ont été données soit à l'algorithme, soit le code qu'il a créé, quand c'est possible. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que les biais dans des algorithmes d'IA sont des biais que l'algorithme va lui-même détecter de deux manières. D'abord, dans les données d'entraînement, c'est-à-dire que les données utilisées pour entraîner un algorithme comportent des biais. En fait, elles peuvent avoir des biais parce qu'elles ne sont pas représentatives de toute la population.
Donc une sous-estimation.
Voilà, on peut avoir des biais qui sont bien connus, comme le biais de sélection, par exemple. Quand on crée des données d'apprentissage sur lesquelles l'algorithme va créer son modèle, eh bien, on regarde une sous-partie, et cette sous-partie de la population ne peut ne pas être représentative de la population globale et comporter des biais. Mais cela se produit également lorsqu'on essaie d'apprendre un comportement et que, de facto, apprendre ce comportement est plus délicat chez une sous-partie de la population que pour un autre. Et ça, c'est des biais qui sont très proches des biais humains que nous avons tous lorsque nous raisonnons par stéréotype.
Ben, les fameuses problématiques auxquelles on est confronté dans les algorithmes de traduction. Lorsque je dis infirmière en anglais, nurse, et que la traduction devient forcément une infirmière, et que le médecin, c'est un médecin, là, j'ai cette problématique de genre, de biais automatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Est-ce que c'est possible déjà? Puisque là, on a une sous-représentation. Comment on fait?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique de biais, ce n'est pas simplement le biais dans les données, mais c'est aussi comment l'algorithme va apprendre ce biais, le propager et parfois même l'amplifier. Donc, même si les données sont biaisées, on peut essayer. Alors tout d'abord, il faut évaluer ce biais. Évaluer, c'est-à-dire donner sa définition. Et ça, c'est un travail pluridisciplinaire. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne définition par rapport aussi aux impacts que va créer le biais, il va falloir arriver à mesurer et certifier la présence de biais dans les données, dans les sorties de l'algorithme, et ensuite arriver à comprendre l'impact de l'algorithme sur le biais ambiant. Et une fois qu'on a évalué les performances de l'algorithme, si on a identifié, par exemple, que l'algorithme fonctionnait moins bien pour certains groupes ou qu'il y avait des décisions qui étaient trop dépendantes de certaines variables dont on pense soit pour des raisons morales, éthiques ou légales qu'elles devraient être prises différemment, il va falloir corriger. Donc, corriger le biais, c'est possible, à condition d'abord de le chercher, donc d'être conscient qu'il peut y avoir du biais et ne pas prendre les vérités algorithmiques pour des vérités plus importantes qu'elles ne sont, Et donc, il va falloir arriver à mesurer ce biais et on peut le corriger. Donc,
on introduit une discrimination positive, par exemple, on met un peu plus de CV de femmes, puisqu'on est confronté à l'invisibilité des femmes aussi dans le numérique, mais c'est aussi le frais d'une réalité. Donc, on tord la réalité. Là. Ça pose des problèmes éthiques aussi.
Alors non, je dirais pas ça. On va... Alors, d'abord, la réalité numérique que l'on tord, ce n'est pas forcément la réalité des données. Et la réalité des données n'est pas la réalité du monde dans lequel on cherche à vivre. Par exemple, si je veux un algorithme de recommandation pour savoir si des femmes peuvent accéder à des grandes responsabilités dans une entreprise, si je prends les données numériques, c'est-à-dire je prends par exemple le nombre de femmes qui dirigent les entreprises du CAC 40, je pense que les données seront biaisées et qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui dirigent. Donc en fait, quelle est la réalité des données de ce monde numérique par rapport au monde potentiel, au monde dans lequel on aimerait vivre? Est-ce vraiment changer la réalité qu'essayer de reconstruire un monde où il y aurait une espèce d'une équité entre genres, par exemple?
Et entre couleurs de peau, puisqu'on a eu la problématique dans les algorithmes de reconnaissance faciale.
Tout à fait, il y a beaucoup de biais. Mais au-delà du simple rééquilibrage des bases d'apprentissage, on peut aussi essayer de contraindre l'algorithme, de contraindre l'IA à apprendre des modèles plus justes. Et ça, ce sont des méthodologies informatiques et mathématiques qui permettent de contrôler toute la phase d'apprentissage et de pouvoir s'assurer que les biais ne vont pas jouer un rôle déterminant dans la construction du modèle.
Comment on peut contribuer à une meilleure interprétation et acceptation de l'IA avec ses travaux sur l'explicabilité et la détection des biais?
Alors, comprendre les biais, c'est une des phases de l'explicabilité des algorithmes.
Ma fameuse première marche.
Si vous voulez.
Je taquine.
Arriver à comprendre, à se prémunir des biais, la première chose à faire, c'est d'arriver à les comprendre et d'arriver à les mesurer. Donc, pour les mesurer, il faut pouvoir se donner une définition. Donc, c'est la première chose, c'est expliciter ce qu'on cherche. Et ensuite, lorsqu'on cherche à les mesurer dans les algorithmes, on essaie de comprendre ce qui est créé par l'algorithme. Donc, c'est l'explicabilité de l'algorithme. Mais l'explicabilité des algorithmes va bien au-delà, puisque l'explicabilité, c'est arriver à comprendre la décision, c'est-à-dire pouvoir expliquer aux usagers comment la décision a été prise. Mais cette explicabilité, c'est quelque chose qui doit, in fine, permettre à la personne de reprendre du pouvoir sur l'algorithme. Donc, expliquer la décision ne suffit pas. Il faut donner des raisons qui sont des raisons causales pour que la personne puisse elle-même être capable d'influer sur la décision de l'algorithme, être capable de changer en modifiant certains paramètres. Et donc, cette explicabilité causale, c'est un des thèmes principaux de la recherche scientifique en IA actuelle. C'est quelque chose qui est assez compliqué à obtenir, puisque les algorithmes sont fondés plutôt sur des corrélations que sur des causalités. C'est comme ça qu'ils sont construits.
Mais alors, quels sont les défis concernant l'explicabilité dans les réseaux neuronaux profonds?
Alors, on est confronté à un dilemme. On a des réseaux de neurones qui, plus ils sont gros, plus ils sont complexes, mieux ils prédisent. Donc, on a envie d'utiliser des réseaux qui sont très complexes, avec un grand nombre de paramètres. On est à 300 milliards actuels pour les gros modèles de langage. Et plus ces modèles sont complexes, et plus ils s'apparentent à ce qu'on appelle des boîtes noires. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une décision, on n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles la décision a été prise. Cette boîte noire est très compliquée à disséquer, à ouvrir, et parce que même si on avait accès à tout l'algorithme, on devrait comprendre 300 milliards de paramètres. Et c'est-à-dire que le réseau a appris des données en se créant lui-même une espèce d'alphabet de dimension 300 milliards, dont la logique est propre aux machines et n'est pas du tout compréhensible par les êtres humains. Donc, quand l'explicabilité des algorithmes, ce n'est pas essayer de suivre tous les paramètres du réseau, mais essayer de comprendre comment se propage l'information et comment on arrive à expliquer dans notre logique humaine, cet espace de représentation qu'a construit l'algorithme, ces espaces de feature ou embedding, si on reprend les termes techniques, et arriver, nous, à leur donner du sens. Il y a beaucoup de recherches pour essayer d'arriver à redonner de la logique humaine à ces alphabets construits par les machines.
Est-ce qu'il y a pour un homme cet aveu d'impuissance, et pour une femme aussi d'ailleurs ?
Pas du tout, c'est un challenge. C'est un challenge qu'on doit relever, à la fois les scientifiques qui travaillent sur ces algorithmes, essayer de donner du sens à ces espaces de représentation en grande dimension, non seulement en donner du sens, mais on voit que ces espaces souvent ne marchent pas, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Si on prend les modèles de langage, il y a toute cette problématique liée aux hallucinations de ces modèles de langage. Et donc on voit bien que même ces gros modèles manquent de logique. Donc essayer de réduire cette dimensionnalité, d'essayer d'apporter de la logique extérieure, d'essayer d'hybrider l'IA avec des connaissances logiques un petit peu comme ce qui se faisait lors des systèmes experts, c'est sans doute une des solutions pour essayer d'améliorer l'IA.
L'hybridation.
Tout à fait. L'hybridation avec des contraintes physiques, des contraintes logiques, c'est-à-dire ne plus laisser la machine apprendre toute seule avec des données, mais essayer de la guider lors de son apprentissage. Un petit peu lorsque, quand vous avez des enfants, vous les envoyez à l'école et à l'école, ils sont face à des experts qui vont essayer de guider leur apprentissage.
Donc tout va bien, on va dépenser beaucoup d'argent pour envoyer les IA à l'école et on se pose beaucoup moins de questions pour tous ceux qui vont, je pense toujours à mes Kenyans, payer 2 $ de l'heure, qui vont modestement, au mieux au Brésil, photographier des cacas de chiens dans ce que j'ai appris pour améliorer les algorithmes d'apprentissage profond et de reconnaissance faciale pour les aspirateurs. Mes fameux Kenyans qui vont trier sans parfois comprendre ces bases de données d'apprentissage et toujours plus, on va dire, d'investissement pour faire en sorte que les IA s'améliorent. Mais est-ce que les humains vont arriver à s'améliorer et suivre le rythme ?
Alors, si on repart sur la problématique des biais, c'est un domaine qui est très intéressant parce que quand on essaie d'étudier les biais algorithmiques, en fait, ça révèle nos propres biais, ça révèle les plusieurs aspects importants de notre intelligence, la manière avec laquelle nous pensons, nous traitons l'information. Quand on essaie de détecter et de corriger ces biais algorithmiques, ça nous apprend tout d'abord que comme ces machines apprennent à partir des données que nous leur fournissons, eh bien ces données reflètent et amplifient nos stéréotypes. Ensuite, bien que l'intelligence humaine est capable de logique profonde, eh bien, les biais analytiques révèlent qu'on peut nous aussi échouer à anticiper les conséquences complexes et systémiques de nos propres créations intelligentes. Donc en fait, si ces machines créent du biais, c'est aussi parce que nous avons choisi de mauvais objectifs, des mauvais indicateurs de performance et qu'on les amène à avoir des raisonnements biaisés. Cette présence de biais aussi, ça peut nous permettre de prendre conscience des efforts que notre société doit mettre en œuvre justement pour corriger ces biais, mais le fait même qu'on puisse arriver à s'interroger sur la présence de biais, ben ça, c'est quelque chose qui révèle aussi notre, si on est optimiste, notre capacité en tant qu'humain d'essayer de réfléchir sur nos propres créations et de vouloir améliorer les algorithmes et donc la société.
On peut s'interroger sur les investissements qui vont être consacrés pour faire en sorte que les IA aillent à l'école pour s'hybrider au mieux. Et le fait que le travail humain, les savoir-faire vont être, on va dire, ravalés à une portion congrue. Qu'est-ce que ça dit de nous ?
D'abord, ça montre l'interaction étroite entre technologie et société. Il démontre comment nos valeurs, nos normes, nos structures sociales sont intégrées dans la technologie que nous créons. Et il montre de la même façon que cette technologie influe sur la société. Ça montre que quand on crée ces algorithmes, il faut peut-être essayer d'encadrer ces processus de création. Ça montre aussi qu'on a besoin de surveillance, peut-être de textes de loi.
Enfin, surveillance, j'aime pas trop le mot. Parce qu'on est en train de sombrer dans un capitalisme de surveillance avec une horizontalisation de cette surveillance. Est-ce qu'on n'est pas... Peut-être on va reprendre, hein, parce qu'on va, on va faire attention aux mots et aux concepts qu'on est en train de déployer sur cette gouvernementalité algorithmique qui va nous dévorer, me semble-t-il. Ramener un peu, non pas de bon sens, mais d'équité, de robustesse, d'explicabilité dans les algorithmes, c'est se poser la question, encore et toujours, de l'usage in fine des systèmes d'IA. Ce n'est pas la même chose de savoir si j'ai envie de manger, grâce à un algorithme, un yaourt à la fraise ou à la framboise. L'impact n'est pas le même que celui qui va peser sur un algorithme de recrutement.
Tous ces débats, ça montre la complexité des conceptions de la morale et de l'éthique qui sont cruciaux dans le contexte de l'IA. Ça nous pousse à réfléchir sur ce que nous considérons comme juste, équitable et éthique dans un monde totalement automatisé. Mais parfois, le diable est dans les détails. On peut regarder un système de recommandations. On peut se dire que ce n'est pas grave d'avoir des recommandations sur un site de vente qui soit, par exemple, genré ou l'influence ethnique ou l'origine ethnique joue un rôle très important. Mais si ce même site est utilisé pour, par exemple, des annonces d'emploi, eh bien, on va conditionner l'accès à l'emploi à des recommandations qui sont biaisées.
Ben, le droit régule toujours ses rapports de force. Donc justement, là, on arrive sur ces tentatives de régulation un peu partout dans le monde, avec des monopoles, je pense aux grandes plateformes et aux gros opérateurs des large language models, qui se présentent comme des pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'ils allument un feu, puis ensuite ils s'érigent en sauveurs de l'humanité pour avoir une régulation sur mesure. Nous avons en Europe fait le choix de l'EA Act, qui se veut la première régulation mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'on va s'en sortir avec la régulation? Est-ce que ça suffira? Qu'est-ce que des chercheurs comme vous peuvent nous apporter?
Des chercheurs comme moi, nous avons besoin de travailler en interaction avec justement d'autres chercheurs dans des champs comme le droit, l'éthique. C'est justement toute cette problématique, on le voit bien, est une problématique vraiment multidisciplinaire, puisque quand on cherche simplement à apporter des solutions techniques, eh bien, souvent, on échoue dans notre ambition sociale. Donc, on a besoin. Donc, la régulation est, je pense, quelque chose de nécessaire, parce que arriver à demander de l'explicabilité et de l'intelligibilité aux décisions algorithmiques, lorsque ces décisions algorithmiques sont utilisées dans des systèmes à haut risque, comme l'accès aux ressources publiques, l'accès, on le voit de plus en plus, à la santé, l'accès même au transport, eh bien, cette décision impacte la vie de tous les jours.
Alors, pour rappel, l'EA Act adopte une régulation qui est fondée sur une approche à deux niveaux, une approche dite par les risques avec une granularité du risque, risque faible, risque minimal, risque élevé, et donc les obligations vont être plus importantes pour les 10 risques élevés. Mais est-ce que cette approche se suffit elle-même, puisqu'elle se double d'une autre régulation sur la puissance de calcul? Est-ce que vous considérez que cela suffit, ou est-ce qu'il ne faudrait pas en plus être plus pragmatique, introduire du droit souple et avoir une régulation par l'usage? Parce que c'est compliqué de réguler de manière générale.
Donc je suis convaincu que la régulation de l'IA en général passe par l'étude des cas d'usage, parce que c'est très compliqué d'établir des règles générales qui seraient valides pour tout système d'IA. Ça pourrait, dans certains cas, freiner l'innovation technologique. Par contre, s'intéresser aux cas d'usage, arriver à encadrer et à comprendre surtout l'impact des décisions algorithmiques et à partir de là donner un sens à ce que devrait être un bon algorithme, me paraît une bonne voie à suivre. Je ne connais pas le texte de l'IAX parce qu'il n'est pas encore disponible.
On fera un podcast spécifique sur la question, rassurez-vous.
Il me semble qu'ils définissent justement, avec la granularité dont vous avez parlé, certains domaines d'application et qu'en fonction des risques de ces cas d'usage, les règlements vont changer. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose d'arriver à s'intéresser aux conséquences et à adapter la régulation en fonction de l'impact.
Moi, ce qui me trouble, c'est l'espèce de forum legal shopping auquel on est en train d'assister, c'est-à-dire que pour des raisons de croissance, de performance, de stimulation de l'innovation, chaque pays est en train, ou chaque empire, en fonction de la façon dont vous les qualifiez, est en train d'avoir sa propre régulation. L'approche anglaise est sur la notion des sandbox, c'est-à-dire des bacs à sable qui vont permettre de développer ces fameux cas d'usage. C'est sur une approche beaucoup plus souple sur l'intérêt légitime, là où en Europe, on a une approche beaucoup plus stricte que certains dénoncent au plus haut degré de l'État, au plus haut niveau de l'État. Est-ce que le fait de vouloir notre champion absolument, ça a encore du sens, quand on sait que capitalistiquement, il s'appuie sur Google ? Est-ce que l'open source sur des modèles plus petits, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ? Vous le disiez tout à l'heure, c'est très compliqué de pouvoir rendre explicable des grands modèles de langage qui fonctionnent sur 300 milliards de paramètres. Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus modeste, puisqu'ils hallucineraient moins si on était sur des modèles plus petits ? Ça serait peut-être moins énergivore. Est-ce qu'on se pose sérieusement la question de l'impact environnemental ? Ça consomme énormément d'eau. Quand je parlais des cas d'usage, est-ce que l'IA ne doit pas être réservée justement du fait de son impact à des universités, à des chercheurs ? On l'avait vu sur Bloom, ils n'ont pas voulu faire un boom capitalistique alors qu'ils étaient déjà très avancés, en estimant que leur création n'était pas suffisamment sûre encore. Est-ce qu'on ne doit pas être plus modeste ?
Si on parle d'impact écologique, c'est une vraie problématique, mais qui est double, parce que vous avez d'un côté l'utilisation d'algorithmes très compliqués sur des tâches qui sont sans doute pas intéressantes, et d'autre part, vous avez beaucoup de recherches de personnes qui essaient de créer des IA qui sont beaucoup plus frugales, qui consomment moins d'énergie. La problématique de cette recherche de frugalité, c'est l'effet rebond bien connu en science. Quand vous essayez de créer une IA beaucoup plus frugale, et bien beaucoup plus de personnes vont en développer. Et in fine, l'impact écologique est plutôt négatif. Faut-il réserver l'IA à la recherche? Je ne pense pas, puisqu'on voit, alors actuellement, les plus gros chercheurs en IA sont dans des entreprises américaines. Et c'est d'ailleurs une des problématiques principales, qui est qu'en Europe, on n'a pas réussi à créer un champion de l'IA, même si c'est à souligner, si la plupart des chercheurs qui ont créé ces IA sont des chercheurs européens et beaucoup français qui sont partis en Amérique ou dans d'autres pays. Et ça peut permettre de s'interroger sur l'attractivité de l'Europe et de la France pour les chercheurs.
Donc des chercheurs tels que vous sont en recherche de laboratoires, s'ils veulent rester en France, qui soient financés. Donc la science a toujours été un savoir critique. Mais on a besoin qu'ils se construisent toujours contre le savoir de la majorité. Donc aujourd'hui, on peut aussi se poser la question de la rationalité. La rationalité inhérente au système d'IA et l'impossibilité de prévenir complètement les biais. Et puis peut-être parfois, c'est nécessaire d'avoir des biais dans certains contextes. Est-ce que ça ne va pas affecter notre approche de l'éthique et de la réglementation de l'IA? Il y a des chercheurs qui aujourd'hui vous disent mais il faut essayer thinking fast and slow. Comment je fais? Non, ça, je crois que c'est Daniel Kahneman qui parle comme cela. Comment, dans cette approche modeste, entre guillemets, mais lucide, et je vous remercie vraiment d'être lucide sur le fait de notre, non pas impuissance, mais le constat que nous faisons face au monopole aujourd'hui américain et au risque de McDonaldisation de la pensée. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ce serait quoi votre envie pour aller plus loin, au-delà de vos propres travaux et de ce que vous faites pour les organisations?
France, on vous connaît, il y a 3 questions, et encore 3, c'est parfois c'est peut-être faible dans cette dernière question. Une des questions à laquelle j'ai envie de répondre, c'est pourquoi faire de l'IA? L'IA, est-ce que l'IA, par ses progrès, va servir les hommes, va les éclairer, va les libérer de l'ignorance? Est-ce qu'on peut créer une IA qui va peut-être contribuer à rendre les hommes meilleurs? Ça, c'est dans un monde où nos actions sont dictées par le passé, où la volonté humaine est subordonnée aux prédictions d'hier, si on a une IA qui est la même pour tous, vous avez parlé de McDonaldisation de la pensée, notre avenir va s'assombrir avec cette espèce d'université menaçante, une IA qui arriverait à sortir les mêmes décisions pour tous, une espèce de vérité immuable, une réalité figée. C'est, vous nous dépeignez un monde orwellien, quasiment dépourvu de liberté. Et dans ce monde, il y aura peu de place à la singularité, peu de place à la créativité. Alors moi, je suis un peu plus optimiste parce que les IA, les IA, on a vu que les IA elles-mêmes peuvent faire preuve de créativité. Alors c'est pas une créativité débordante, mais en fait, ce qui est important, c'est que si on arrive à rendre l'IA explicable à contrôler un petit peu les décisions au moyen de réglementation, on pourra imaginer un dialogue entre l'IA et l'homme. On est en train d'essayer d'avoir des IA apprenantes, mais si on arrive à mieux évaluer, mieux comprendre les décisions de l'IA, on peut imaginer un partenariat et que ce ne soit pas simplement le machine learning, mais que ce soit aussi le human learning, que l'homme puisse apprendre de la machine.
Merci, vraiment Jean-Michel. Alors rejoignez-nous pour ces conversations peut-être aux machines demain qui sont à la fois sérieusement informatives et agréablement divertissantes, vous le voyez, parce qu'en fin de compte, si on ne peut même pas rire de l'apocalypse des robots ou de la nôtre, de quoi peut-on rire? Et à bientôt dans l'arène des IA où Sam Altman règne peut-être, jardinier de pixels qui sème leurs graines. Les machines s'éveillent, empruntent, nos esprits lentement n'ont plus qu'à s'éveiller.